Bonjour, merci à vous de m'accueillir parmi vous aujourd'hui pour une présentation, somme toute assez rapide évidemment, de ce que peut être la prestation de travail saisie par le droit. Hier, 22 juin, un accord est conclu à France Télécom pour la mise en place du télétravail à France Télécom, avec un élément assez symptomatique. C'est qu'il est prévu que les futurs télétravailleurs ne pourront travailler que 3 jours par semaine sous la forme du télétravail, les 2 autres journées devant être exécutées, le travail devant être exécuté dans l'entreprise. L'idée, la motivation, c'est que le télétravail, c'est expressément indiqué dans l'accord, le télétravail ne doit pas faire exploser véritablement la collectivité de travail. Quelques jours auparavant, 9 juin, l'Assemblée nationale adopte une proposition de loi, la proposition de loi Poisson, qui, d'une part, fait entrer le télétravail dans le Code du travail pour la première fois, avec un certain nombre de dispositions, d'autre part, organise pour essayer de relancer la technique des groupements d'employeurs qui permettent à des employeurs de mettre à disposition, qui permettent aux groupements de mettre des salariés à disposition d'entreprises adhérentes au groupement. La même proposition de loi desserre l'étau de la mise à disposition de salariés, qu'elle légalise plus largement en faisant tomber presque totalement les délits de marchandage de main-d'œuvre ou de prêt de main-d'œuvre à but illicite. Quelques jours auparavant, le 3 juin, la Cour de cassation, dans un arrêt qui a été commenté sur toutes les radios et dans toutes les télévisions, la Cour de cassation considère que les participants à l'émission « L'île de la tentation », ses participants bénéficient en définitive d'un contrat de travail dans la mesure où, indépendamment du règlement qu'ils ont signé, les conditions réelles d'exécution de leurs prestations dans l'île caractérisent l'existence d'un contrat de travail. Voilà trois exemples extrêmement récents qui montrent à la fois l'actualité du sujet de la prestation de travail, mais qui montre en même temps que les lignes sont en train de bouger. En fait, la prestation de travail, c'est une composante de tout contrat de travail au sens large du terme, que le travail s'exécute de façon subordonnée ou non subordonnée. La prestation de travail est au cœur d'une relation de travail, y compris d'une relation d'entreprise, de contrat d'entreprise ou de contrat de prestation de service. Simplement, lorsque cette prestation de travail s'exécute sous la forme ou se traduit par l'existence d'une subordination juridique, à ce moment-là, on parle véritablement de contrat de travail, cette fois au sens strict du terme. C'est le contrat qu'évoquait François tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui provoque, en quelque sorte, le déclenchement du régime juridique du contrat de travail, c'est-à-dire le déclenchement de l'application du Code du travail. En droit des contrats, d'une façon générale, on distingue habituellement l'objet du contrat, l'objet de l'obligation et l'objet de la prestation. Et je laisse ici de côté l'objet du contrat, c'est une affaire de juriste, donc longue discussion doctrinale entre juristes qui ne vous intéresserait guère. En revanche, évidemment, l'objet des obligations des parties et l'objet de la prestation va nous intéresser. Ce que je voudrais vous montrer ici, en 3 temps, pour ouvrir des pistes évidemment, c'est d'une part la prégnance dans la relation de travail du paradigme, ce que j'ai appelé le paradigme contractuel, d'autre part la déformation actuelle de ce paradigme et les forces qui sont à l'œuvre conduisant à cette déformation, et enfin la réapparition de la personne derrière la force de travail dans la relation de travail. Et de ce point de vue-là, vous avez déjà senti qu'à ma présentation, l'émergence ou la réémergence de la personne dans la relation de travail va me conduire à des conclusions qui sont assez contradictoires avec celles de François à l'instant. Mais je m'en doutais un peu. Premier temps, si vous voulez bien, la prégnance du paradigme contractuel. Cette prégnance, elle se situe, à mon avis, à 2 niveaux. Le premier, je l'évoque simplement, et l'autre, il faut que je m'arrête un instant parce qu'elle nous renvoie à des techniques propres au droit des contrats. Alors, le premier niveau de cette prégnance, c'est ce que j'appellerais, moi, la prégnance discursive. C'est-à-dire que nous vivons dans une société où on a fini par nous faire croire que tout ce qui était contractuel était forcément mieux que la loi, parce que le contractuel serait supposé être plus souple, parce que le contractuel serait le lieu de la flexibilité, parce que le contractuel serait le lieu de la négociation et de la discussion. Et ça, c'est une prégnance discursive. On n'arrête pas, depuis 15 ans, 20 ans, de nous expliquer que mieux vaut du contrat que de la loi, parce que le contrat serait la souplesse, tandis que la loi serait la rigidité. Il y a beaucoup d'illusions derrière cette pratique-là et derrière cette prégnance-là, mais ce n'est pas mon objet ici. En revanche, il y a une prégnance que j'appellerais technique, qui se joue en particulier autour de la notion d'objet des obligations et d'objet des prestations. Par tout contrat, pas spécialement le contrat de travail, les parties acquièrent des droits, mais aussi des obligations. La prestation de travail, ou la prestation d'ailleurs, forme l'objet de l'obligation du travailleur, qu'il soit d'ailleurs travailleur salarié ou non salarié. La prestation de travail est un objet, mais elle a aussi un objet qui prend en droit commun des contrats la forme d'un acte ou la forme d'un objet concret. De ce point de vue, le contrat de travail, dans le contrat de travail, la prestation de travail est en quelque sorte nichée. La prestation de travail est un élément central, le noyau dur, pourrait-on dire, du contrat de travail. Cette prestation de travail s'inscrit donc au cœur du paradigme contractuel, me semble-t-il, et c'est à partir des évolutions de la prestation de travail que l'on peut essayer de percevoir les forces qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui transforment véritablement le paradigme contractuel en matière de relations individuelles de travail. C'est le deuxième point. Le paradigme, donc, me semble-t-il, ce paradigme contractuel en droit du travail, est en train de se déformer sous la pression de forces contraires, et cette déformation affecte en retour la prestation de travail elle-même. C'est-à-dire que c'est la transformation de la prestation de travail qui affecte le paradigme contractuel, et en retour, la transformation du paradigme contractuel transforme l'idée que l'on se fait de la prestation de travail. Cette déformation, à mon sens, et on l'a évoqué à plusieurs reprises ce matin, vous allez voir, cette déformation, elle se joue, elle se fabrique, elle se provoque de l'extérieur de la relation de travail, mais aussi de l'intérieur de la relation de travail. De l'extérieur de la relation de travail, elle s'exprime, cette déformation, de deux manières différentes. D'abord, elle s'exprime dans l'attraction du salariat. Pourquoi ? François vous l'a indiqué tout à l'heure. À partir du contrat de travail, à partir de la relation de travail, le droit du travail s'est constitué comme un droit protecteur. Et le salariat a très longtemps été la voie d'entrée royale, toute proportion gardée évidemment, la voie d'entrée dans le régime de protection, non seulement d'ailleurs dans un premier temps le régime de protection du droit du travail et donc du code du travail, mais aussi le régime de protection sociale. Vous savez comme moi que l'histoire de la protection sociale nous montre que par la suite, les mécanismes de protection sociale se sont dégagés de la gangue du contrat de travail, mais il n'y a pas si longtemps, c'est pas Mathusalem, il n'y a pas si longtemps que la protection sociale de base était réservée, en définitive, à ceux qui pouvaient justifier d'un travail salarié, et au demeurant, pas n'importe quel travail salarié, un travail salarié les occupant au minimum un certain nombre d'heures à l'intérieur de la semaine ou du mois. Bref, il n'en demeure pas moins que c'est accrédité l'idée que, via le salariat, s'ouvrait une protection particulière en termes de salaire minimum, en termes de droit du licenciement, etc., etc. Donc, le salariat, les avantages, alors, comprenez-moi bien, les avantages parfois très relatifs, mais les avantages du salarié ont joué une force d'attraction très, très forte. Ce qui a amené, par quelque chose que les juristes connaissent bien, qui est le travail de qualification, ce qui a amené la jurisprudence à essayer, chaque fois que cela a été possible, de traduire une prestation de service contractuelle sous forme de contrat de travail. Et d'une certaine façon, les employeurs ont bien aidé la jurisprudence en la matière, puisque eux, dans une stratégie tout autre, qui était une stratégie de contournement du droit du travail, ont essayé, c'était les vendeurs de pizza, c'était les distributeurs de journaux à domicile, c'était les pseudo-indépendants, c'était les faux artisans, etc., etc. Les employeurs ont essayé de se dégager de la protection du droit du travail en multipliant les contrats de prestation de services non labellisés contrat de travail, donc non générateurs de la protection. Et pour contrer cette position-là, la jurisprudence a joué, ce qu'elle fait habituellement, elle a joué sur la qualification, en prenant une situation et en regardant en fait quelle était la situation, en repérant dans cette situation un certain nombre d'indices de la subordination pour dire, eh bien voilà, cette situation est une situation juridiquement subordonnée, donc c'est un contrat de travail, donc le Code du travail s'applique. Et c'est exactement ce qui explique l'arrêt l'île de la tentation. À savoir qu'on est parti, je ne suis pas forcément d'accord avec cet arrêt, certains le savent ici, mais on est parti d'une situation où voilà, les gens ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, ils étaient contraints, ils avaient des horaires, ils avaient des obligations, il fallait qu'ils soient présents, il fallait qu'ils s'habillent de telle sorte, etc., etc., etc. Autant d'indices d'une subordination qui permettaient de dire qu'ils étaient des travailleurs, donc des salariés, donc bénéficiant du contrat de travail. Et évidemment, ce travail de qualification-là a aussi été facilité par le fait de la dilution des frontières entre le travail dépendant, qui ne ressortit pas du droit du travail, et le travail indépendant, qui ne ressortit pas du droit du travail, et le travail dépendant, économiquement et juridiquement dépendant, qui, lui, déclenche l'application des règles du droit du travail. Et évidemment, on a vu apparaître, c'est ce que Suppiot montre très bien dans un de ses articles, on a vu apparaître à l'intérieur même de la relation de travail subordonné un discours sur plus d'autonomie, plus d'indépendance dans le travail, etc., etc. Et on a vu du côté des indépendants, des indépendants juridiquement, des situations qui étaient des situations, je ne veux pas dire d'esclavage, mais pas loin, où effectivement, lorsqu'un sous-traitant travaillait pour une seule entreprise, tout seul en tant qu'artisan, il était pieds et poings liés par cette entreprise et complètement dépendant, véritablement, pour sa survie même, la sienne et celle de sa famille, des ordres qui lui étaient donnés par l'entreprise. Et lui, on disait, il est indépendant. Et alors, au salarié qui, lui, était un peu plus indépendant dans son travail, on lui disait, oui, mais lui, il a un contrat de travail, donc lui, il a le droit du travail pour lui, il a la protection pour lui. Donc, vous voyez, ce brouillage des cartes par l'extérieur, en quelque sorte. Alors, par l'intérieur, mais écoutez, M. Voronov disait ce matin, au fond, l'usine, c'est un mur, ce sont ses paroles, c'est un mur et c'est un règlement. C'est vrai, c'est un mur, c'est un règlement, mais c'est aussi une sirène, c'est aussi une horloge. En d'autres termes, le modèle de l'usine, avec l'idée d'un travail qui s'exécute en un lieu précis, dans un temps précis, pour une durée précise, sur une machine précise, ce modèle-là, évidemment, de l'intérieur, il est en train de voler en éclats. Prenons-en quelques exemples. Le lieu de travail, vous connaissez comme moi le développement des entreprises en réseau, vous connaissez comme moi le télétravail, et on a vu tout à l'heure, ce matin je crois, l'impact des technologies de l'information et de la communication sur le mode d'exécution du travail. Le lieu de travail, est-ce que ça change quelque chose de travailler dans le TGV, sur son ordinateur, faire de l'e-learning dans son ordinateur, dans le TGV, ou dans son bureau, ou dans un espace que l'entreprise a loué pour vous, temporairement, pour 2 heures, dans telle rue de... Non. On est sur le lieu de travail ici, a littéralement explosé. Quant au temps de travail, il a explosé sous les deux volets, sous le volet chronologique et sous le volet chronométrique. Vous savez comme moi, ça c'est l'impact aussi de l'économie, enfin, d'une certaine façon, vous savez très bien que les carrières des salariés n'ont plus ce côté linéaire qu'on pouvait connaître il y a 30 ou 40 ans, où l'on rentrait, ce qu'ont connu mes parents, on rentrait dans une entreprise textile à 16 ans et on en sortait dans un cadre d'un plan social textile à 56 ans, voilà, c'est fini, ça. Je veux dire, sur le plan chronologique, la carrière est une carrière fractionnée avec des temps de travail, des temps de non-travail, des temps de chômage, des temps de formation, etc. Et sur le plan chronométrique, le temps de travail, où est le temps de travail dans une convention de forfait ? Pourtant d'une pratique courante, où en fait on paye une personne pour un forfait d'heures. Il en fait plus, il en fait moins. En fait, c'est le but de la convention de forfait. Bien, je pourrais multiplier les exemples à l'envi. Ce qui est sûr, c'est que voyez que les éléments du paradigme, le lieu de travail, le temps de travail, ont littéralement explosé. Et ça nous amène, et c'est le dernier temps, ça nous amène à la résurgence de la question des conditions de travail. Parce que je crois beaucoup à cette résurgence de la question des conditions de travail, parce qu'on est ici dans une démarche un peu prospective. Pendant très longtemps, les conditions de travail intéressaient peu les juristes. Même pas du tout, pour tout dire. C'était la partie du Code du travail qui ennuyait tout le monde. Vous savez, celui où on parle des dégagements, la partie du Code du travail où on parle de l'ambiance, de la lumière, etc. etc. C'est terminé, ça. C'est terminé. Les conditions de travail remontent en puissance. Pourquoi ? Parce que c'est véritablement le seul élément qui devient véritablement structurant d'une pensée sur le travail, me semble-t-il, en tout cas du point de vue du droit. Et la résurgence, la montée en puissance des conditions de travail que l'on constate ces dernières années ramène dans ses bagages, en quelque sorte, la personne elle-même, la personne humaine, et la personne elle-même et la personne dans ces deux composantes, me semble-t-il. La personne comme être social et la personne comme, au fond, être de chair et d'os. La personne comme être social, j'en dis simplement un mot, eh bien, on la retrouve dans tout le discours sur la sécurisation des parcours professionnels. Parce qu'il s'agit de quoi, là ? Il s'agit d'essayer, par contrat notamment, de lisser la situation, de lisser chronologiquement la situation de la personne, indépendamment des vicissitudes de sa carrière, des incertitudes de sa carrière, des trous de sa carrière. C'est bien le but. Alors après, tout ça se décline de façon différente, suivant les options politico-syndicales des uns et des autres. Mais l'idée centrale est bien là. La sécurisation des parcours professionnels, à la base, c'est le plus petit commun dénominateur de tous les discours sur la sécurisation, c'est bien ça. C'est-à-dire, au fond, prendre en considération la personne tout au long de sa vie, mais j'ai presque envie de dire la personne peut-être d'abord comme être social, mais aussi la personne comme être de chair et de sang. Et là, évidemment, les questions, mais ça vous l'évoquerez demain, je crois, les questions de santé au travail deviennent absolument déterminantes. Pourquoi ? Tout simplement parce que les principales pathologies professionnelles aujourd'hui, quelles sont-elles ? Ce sont les cancers professionnels, les troubles musculo-squelettiques et ce qui monte en puissance actuellement, ce qu'on appelle de façon un peu commode les risques psychosociaux. Il ne vous a pas échappé que ces trois maladies professionnelles-là, ces trois grands problèmes du droit contemporain de la santé au travail ont cette caractéristique d'être nécessairement plurifactoriels, c'est-à-dire qu'ils concernent la personne dans sa globalité. Ça vaut pour les TMS, ça vaut pour les cancers, ça vaut pour les risques psychosociaux. Et donc, si on veut prendre au sérieux ces trois pathologies majeures de la relation de travail aujourd'hui, on est bien obligé de remettre en chantier la réflexion à partir de la personne humaine dans le travail. Sinon, ça n'a pas de sens. Une personne de chair et d'os, ça ne se saucissonne pas. Et aujourd'hui, plus que jamais, par les effets que je viens d'invoquer, tout au long de mon propos rapide, eh bien, aujourd'hui, plus que jamais, on ne change pas de nature quand on passe la porte de l'entreprise. D'abord parce que des fois, il n'y a plus de porte de l'entreprise. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de mur. Et pourtant, il y a encore de la prestation de travail. Et pourtant, il y a encore de la prestation de travail subordonnée. Mais même quand il y a une porte, quand il y a un mur, eh bien, on amène dans l'entreprise et on ramène de l'entreprise. On amène à l'entreprise ce qu'on est et on ramène de l'entreprise ce que l'entreprise a fait de nous. Et c'est particulièrement vrai pour les trois pathologies professionnelles que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, vous voyez que le grand enjeu en termes de prospective, me semble-t-il, et au fond, ma conclusion, malgré tout, est la même que celle de François, c'est que la conclusion, même si je le prends par un autre bout, c'est qu'aujourd'hui, en termes de prospective, il me semble que la question majeure, j'exclus tout ce qui est du domaine du droit du licenciement économique en particulier et de restructuration qui ont leur importance et qui ne sont pas sans lien d'ailleurs au demeurant avec les problèmes de santé au travail. Il faudrait aller plus loin, j'y répondrai peut-être aux questions là-dessus. Mais indépendamment de ça, la question majeure est aujourd'hui la question, me semble-t-il, des conditions de travail et c'est bien tout l'intérêt, me semble-t-il, de ces trois journées, des trois journées qui nous occupent au cours de ce mois de juin. Je vous remercie de votre attention. Thank you.